Alors aujourd'hui, on va parler un peu sur. On se trouve dans l'histoire de l'élève de Eliyahu Navi qui était Elisha. Elisha Navi, on a dit qu'il a fait plein de choses. Entre autres, comme il a dit notre cher Yosef, que Elisha, c'est lui qui va. C'est lui qui va refaire. C'est lui qui a. Grâce à lui, Habakkouk, il est venu. Et c'est lui qui va faire revivre Habakkouk. Nachon Elisha. Et voilà que ce Elisha, comme on a raconté, il a fait revivre le bébé, on était là, et c'était la fille de Avishag Hashunamite. Et j'avais juste pas dit ce détail, que les gens qui n'ont pas d'enfants, ils vont chez chez cette femme-là, Hashunamite, où elle se trouve. Elle se trouve, je crois, dans le nord. Et les gens qui n'ont pas d'enfants, ils vont chez elle. Moi, je me rappelle une fois, il y avait une personne qui avait. Ça fait longtemps il a pas réussi à avoir d'enfants, j'ai osé lui dire. J'ai honte de te dire, mais je viens d'entendre de cette goula-là, c'est dommage de ne pas essayer, d'aller prier dans sa tombe, et tu vas à Bezat Hashem, tu auras un enfant. Il avait aucun problème, le type. Stam, ça venait pas. Et voilà qu'il m'a dit, t'inquiète, je suis allé. Je suis allé, et pas longtemps après, il a eu des enfants. Donc cette femme-là, elle s'appelle Avishai Yoshunamit, c'était une femme qui faisait beaucoup de Hachna Satochim, qu'on a raconté la semaine dernière. Et donc elle n'a pas eu d'enfant, mais comme elle a reçu Elisha Anavi, il a promis que quoi? Qu'il a lui donner un enfant, et il a eu un enfant. Après il est mort, il a fait revivre, etc., etc. Et Elisha, il avait un certain serviteur qui s'appelait Gehazi. Vous vous rappelez quand elle a vu que son enfant était mort, il avait la fièvre, elle a vu que son enfant était mort, elle a vite mis dans la chambre, elle s'est sauvée chez qui? Chez Elisha. Maintenant, Gehazi, c'était le secrétaire. Donc, Elisha, il dit à Gehazi, va voir ce qu'elle me veut, pourquoi elle vient? Pourquoi elle vient? Et Gehazi, il vient, il dit, qu'est-ce que tu veux? Elle a poussé, elle a dit chez Elisha, elle dit, regarde, je t'avais pas demandé de me donner un enfant. Je t'ai pas demandé. Maintenant que tu me donnes un enfant, tu me l'enlèves. Alors, il fallait pas me le donner. Et Elisha, il a dit, t'as raison. Il avait déjà donné à Gehazi le bâton pour le faire revivre, il avait utilisé sur un chien mort. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y croyait pas. Et on va raconter sur ce Gehazi là une histoire on avait parlé de Achav, le roi d'Israël, il s'appelait Achav. On a dit que c'était un gros rachat, mais il avait quand même, Adkama qu'il était rachat, quand le roi de Aram, il avait demandé d'envoyer le Sefer Torah, tout son argent, ses femmes et tout ça. Et le Sefer Torah, il a dit non, le Sefer Torah, j'en vois pas. Très bien, la Torah, il a dit, j'en vois pas. Ce Achav là, comment il est mort? Il y avait un type qui s'appelait Naaman. C'était un petit serviteur comme ça. Il s'amusait avec sa flèche, comme ça, avec son arc. Il a tiré, sans faire exprès, il a tiré une flèche et il a tué le roi. Et c'est devenu genre le héros. Alors que c'est comme le fameux Malien, là, qui est monté, devenu le héros, alors qu'il y avait son voisin qui était à côté, qui pouvait le prendre, quoi. Donc, ouais, chelou, on ne comprend pas. Ce Naaman, il est devenu un héros, il est devenu très riche, comme Van. Et ils l'ont élevé de. Mais le problème, son seul problème, c'est Naaman, il est plein d'argent parce qu'il a reçu des cadeaux et des cadeaux qu'il a tué le roi Achav. Mais son problème, c'est qu'il avait la lèpre. Tu te rappelles? La lèpre de Naaman, tu as connu, tu as entendu ça? Il avait une lèpre. Il a tout fait. Il a fait tous les crèmes du monde, tous les docteurs du monde, tous les gens qui s'occupent de la peau, tout cela, il est allé chez eux et rien n'a marché. Il allait à la mer morte, à la mer rouge, à la mer verte, à la mer. Violet, il allait aux mers noires, il allait au Sinaï, il allait de partout. Il n'y a rien qui a fait effet. Et donc, une fois, il y avait une petite jeune qui était capturée, c'était une jeune juive. Elle dit, regarde, Anaman, il dit, regarde, tu devrais essayer. Nous, on a un avis qui s'appelle Elisha, il fait des nissim, ce que tu veux, il te fait. Essaye, tente. Elle dit, pourquoi pas? Il se dit, qu'est-ce que je perds? Je vais aller. Il va. Maintenant, Elisha, il était très occupé, il n'avait pas le temps de recevoir ces gens. D'abord, ce Elisha, il se présente chez le roi juif. Le roi juif, il dit, mais attends, mais tu m'as pris pour un magicien, moi? Tu as la lèpre, il faut que je sois un docteur, moi, pour qui tu m'as pris? Et Elisha, il a entendu ça, le Navi, il a dit, mais pourquoi tu ne me l'envoies pas? Moi, je le guéris, il n'y a pas de problème. Il dit, comment on va le guérir? Il dit, tu sais quoi? Dis-lui qu'il se trempe 7 fois dans le Jourdain, et il va guérir. Et ils ont répété ça à Naaman, il dit quoi? Il se moque de moi, non seulement il ne me reçoit même pas, il me dit de me tremper, mais il croit que quoi? Qu'en me trempant, ça va guérir? Elle dit, je vais le buter celui-là. Bon, ses serviteurs, ils ont dit, mais attends, mais tente, si t'as de vie, tu perds rien, de toute façon, à ton stade, laisse tomber, quoi, tu as la lèpre, tente. Il va, il se trempe, tu vois pas qu'il guérit. Il revient avec des cadeaux, et des cadeaux, et des cadeaux, et des cadeaux. Il va dans tous les magasins, tu sais. Et voilà qu'il ramène à Elisha, il fait des chèques, tac, tac, il le met sur le bureau. Et Elisha, il dit, reprends tout ça, là, tout ça, tu vois, tous tes cadeaux, là, tout ça, tu reprends. Mais ça va, c'est bon, c'est la reconnaissance, un minimum. Là, tu m'as sauvé de ma vie. Il a écrit que sa peau, elle est revenue comme une peau de bébé. Il dit, je veux rien de ça. Bon, moi, je ne fais pas ça. C'est Hachem qui t'a guéri, c'est pas moi. Moi, je t'ai rien fait. Donc, reprends tout ça. Maintenant, il y avait Gehazi, c'est le petit secrétaire. C'était pas un pigeon, lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Quand il est parti, Naaman, il est reparti. Gehazi revient, il arrive en moto comme ça, il dit, regarde, mon maître, il a changé d'avis. En fait, il veut tous les cadeaux. Donc en fait, c'était pas vrai, quoi. Il n'en pouvait plus, il avait des cadeaux, de l'argent et tout. Il dit, donne-moi tout ça. Il dit, avec plaisir, moi, je l'ai acheté pour vous. Hein. Dis à ton maître, t'en rends compte ou pas ? Elisha, le Gehazi prend tout ça, et Elisha, maintenant, comme il avait le roi Hakodesh, vous voyez tout, il a vu qu'il a fait ça. Il a dit, bien, tu sais quoi ? Parce que tu as fait ça, tu as fait un gros Chilul Hashem, là. C'était très grave. Pourquoi je n'ai pas reçu, moi ? Je n'ai pas reçu. Parce que je voulais lui faire je voulais lui montrer que nous, ça ne nous intéresse pas, tous ces trucs-là. Ce matériel, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le spirituel. Ouais ? La Chokhma. Parce que tu as fait ça, la lèpre qu'il avait Naaman, tu vas te l'attraper, toi. Donc, Gehazi, il a eu la lèpre, il a attrapé la lèpre. Et voilà que Gehazi, comme il a vu que son maître il était énervé sur lui, il a décidé de tout lâcher. Il a commencé à aller à... Vous vous rappelez qu'on avait vu que Yerovam ben Nevat, il avait fait des veaux d'or. Ouais. Il allait faire les veaux d'or. Et non seulement, il a associé à ces veaux d'or, il leur a mis des colliers comme ça, que ces colliers, le veau d'or, il pouvait être suspendu entre le ciel et la terre. Il avait des forces, il avait appris un peu des forces de Touma. Il a réussi à faire des choses que même les veaux, ils parlaient, je suis ton Dieu, etc. Donc il a commencé à craquer complètement. Et Elisha, il était triste. Il a dit, peut-être je peux le faire Tshuva. Il va lui parler, il dit, non, mais tu m'as dit qu'un type qui a fait des fautes, qui a fait la Vodazara, il ne peut jamais faire Tshuva. Donc il n'a pas voulu accepter, il est parti en cacahuète. Et le pauvre, il est mort. Et il n'a pas eu une part dans le Gan Eden. On voit que celui qui n'écoute pas Dieu, ouais, quand tu... T'avais un maître, au lieu de suivre son maître, est-ce qu'il paraît ce Gehazi-là, il se mettait des fois, il étudiait en dehors de la maison pour faire genre, il y a plein de monde dedans, comme ça, genre personne venait chez Elisha. C'était un fait, enfin, on ne peut pas parler sur lui, mais il faisait plein de choses ce Gehazi-là. Donc, entre parenthèses, j'ai un truc de folie à vous dire. On a vu dans la paracha de Béalotra, ouais, dans la paracha de Béalotra, on a lu cette semaine, il y a écrit Béalotecha. C'est quoi Béalotra ? Rashi dit deux explications. Ou bien il y avait des marches, devant la menorah il y avait des marches, ou bien Béalotra, tu devras, quand tu allumes la menorah, ouais, la menorah, il y avait une centrale, il y avait la centrale, et il y avait des ramifications. Quand tu vas allumer la menorah, il faut que tu attendes que la mèche, elle monte haut. D'accord ? Pas que tu allumes les gens. Et donc là, tous les commentaires, ils demandent pourquoi on a dit Béalotra en s'élevant. Il fallait dire en allumant. C'est quoi en s'élevant? Béalotra, en s'élevant. Alors j'ai vu un très beau pshat. Écoutez ce pshat-là, c'est un pshat magnifique. Il est de folie celui-là. C'est quoi il y a écrit Vayasken Aaron. Aaron, il a pleuré. Il a dit tous les Nessim, tous les princes, ils ont amené des corbanotes, ils ont amené des cadeaux pour le Mishkan. Moi, j'ai rien. Hachem lui a dit, t'inquiète pas, toi ton cadeau il sera encore mieux que tout le monde. Qu'est-ce que tu vas voir à la menorah? Et quand il n'y aura pas de Beit HaMikdash, qu'est-ce que tu auras? La Chanoukia. C'est-à-dire que ça va se perpétuer. Alors que eux, c'est que quand il y a le Beit HaMikdash. Toi, même quand il n'y aura pas le temple, toi aussi. Il y a écrit, Vayasken Aaron. Aaron, il a fait Ken. Vayasken, Rashi dit, Melamed Sheloshina. J'apprends que Aaron, il n'a pas changé. Vayasken Aaron. J'apprends que Aaron, il n'a pas changé. Alors la question c'est, écoute ça, la question c'est, est-ce que j'avais une avamina, est-ce que j'avais une seule pensée que Aaron, il a changé quelque chose. Aaron à Cohen, on ne parle pas de moi, on parle de Aaron à Cohen. Est-ce qu'il va changer une seconde la phrase d'Hachem? Ouais. Imagine par exemple, je dis, tu sais, Marlon, il fait 3 prières par jour. Ils vont me dire, waouh, c'est normal, c'est un juif, non? Il fait 3 prières par jour. Mais si je dis, non, Marlon, il étudie 24 heures sur 24, comme Raphaël Mikhaïlovski. Là, je veux dire, waouh, là, c'est un grand, tu vois ce que je veux dire? Alors, la même chose, si je dis qu'Aaron à Cohen, si je dis qu'Aaron à Cohen, il était 24 heures sur 24 dans le Bétamidage en train d'étudier, là, c'est quelque chose. Mais de dire, vaya Sken Aaron, qu'Aaron, il a fait ce qu'on lui a demandé, c'est normal. C'est bon la question?
Ouais.
Écoute ça, magnifique. Il y a écrit dans la création du monde. Alors ça, c'est un chidouche, the chidouche. Je l'avais dit à Paris, ouais. On m'a dit, tu as 3 minutes pour parler. J'y suis là, écoute. Il y a écrit, vayasken Aaron. Tous les jours de la création, il y a écrit, vayichen. Et fut ainsi, et ce fut ainsi, et ce fut ainsi. Il y a un jour dans la création qui n'a pas écrit vayichen. C'est quel jour? Non. Le jour où Hachem, il a créé la lumière, il n'y a pas écrit vayichen. Rachid dit pourquoi? Parce que quand il a créé la lumière, il a créé une lumière, il a dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces mécréants, ces réchaïm? Ils vont faire everybody, c'est pas bien avec cette lumière-là. Je vais prendre sa lumière, je vais la mettre de côté pour les tzadikim. Ok? Ce qu'on appelle oraganouz, la lumière qui est réservée. Ok? C'est pour ça qu'il n'y a pas écrit vaïken, parce qu'il n'y a pas eu de ken. Il n'y a eu qu'une en théorie, mais il n'y a pas eu de pratique. C'est là? Aaron. Dis-le à Rizal dans la Kabbale, qu'est-ce qu'il a fait à Aaron? Il y en a qui ont fait des pétilotes de tzitzit selon le Rizal. Ouais, 30 euros le film. Alors il fait à Kavanot de Rizal selon le Ben Yishraï, quoi. Alors le Rizal, il dit comme ça, il dit que Aaron, quand il a pris quand il a allumé la menorah, vous savez que quand la menorah, on dit qu'elle éclairait tout le monde, vous savez ça? La menorah, elle éclairait tout le monde. Il dit, le Arizal, il dit que qu'est-ce qu'il a fait à Aaron? Aaron, comment c'est possible que la lumière de la menorah ait éclairé tout le monde? Aaron, il a réussi à descendre ce fameux Oraganouz, cette lumière-là qui était de côté pour les tzadikim, et il a réussi à la faire descendre dans le Beth Amikdash. Comme ça, il dit le Arizal. C'est pas que Stam Aaron, c'est pas Balotra, c'est pas juste qu'il a allumé les bougies. Ce qu'on a demandé, il fallait dire en allumant, pourquoi il écrit en se levant? C'est-à-dire qu'Aaron, ce n'est pas juste qu'il a allumé, il a élevé. C'est-à-dire qu'il a réussi à descendre la lumière qui était réservée pour les tzadikim, mais il a réussi à la faire descendre à qui? Dans le Beth Amikdash. C'est ça que le pasuk dit. Vayas ken Aaron. Aaron, il a remis le ken qui manquait le jour de la création. C'est ça qui est écrit dans Parashat Balotra. Vayas ken. Ce fameux ken-là qui manquait, il a fait descendre dans le Beth Amikdash. Vayas ken. Et c'est ça que Rachid dit. Mais la met chez l'Oshina, j'apprends de là que quoi? Que Aaron, il n'a pas changé. C'est-à-dire quoi, il n'a pas changé? Parce que jusqu'à maintenant, il y avait une différence entre les jours, les autres jours de la création et ce jour-là. Parce que tous les jours de la création, il écrit Ken, et ce jour-là, il n'y a pas Ken. Aaron, en allumant la menorah, qu'est-ce qu'il a ramené? Le Ken. Donc il a fait qu'il n'y a plus de changement. Zabshad Berashim, mais la met chez l'Oshino, on apprend de là qu'il n'a pas changé. Zabshad Vayas Ken Aaron. C'est ça le chidouche de la paracha. Non, Bémet, c'est le joli, c'est-à-dire que Aaron, en allumant ça, Balotra est un érote. Aaron, il a réussi à mettre le ken. Ouais, toujours la bougie. La bougie, c'est la référence de la neshama. Ouais, on dit que toujours, quand on parle d'une neshama, on parle d'une bougie. La bougie, ça fait référence à plein de choses. Ouais, on sait que, par exemple, la flamme, quand tu prends d'une flamme, comme je dis hier, quand tu prends quelque chose d'une flamme, bah, la flamme, elle se diminue pas. Ouais. Tout le monde peut. Tu peux allumer ta cigarette. Je n'ai pas besoin de faire le radin. Ouais, tu vas me prendre la lumière. Non. Parce que quand tu prends de ma bougie et tu allumes ta cigarette, je ne vais pas te descendre de l'intensité. Et d'ailleurs, comme je dis, il y a des sortes de contrats entre les. Ce n'est pas pour faire un appel. Il y a des sortes de contrats entre Issachar et Zvouloun. Il y a le type qui a les nerfs d'étudier et il y a les types qui a les nerfs pour travailler. Ils font ils s'associent, mais pas instantanément. On s'associe genre. J'appelle le rabbin, vas-y, tu dis, je te donne. C'est un vrai contrat. C'est un vrai contrat qu'on fait devant un bedin. Il y a ce qu'on appelle Issachar Zvouloun, tu fais un contrat. Et tu fais le contrat, tu dis, voilà, moi je travaille, je te donne l'argent et toi tu étudies. Non, j'ai dit à Youssef, alors demain, si le type il n'étudie pas, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors l'autre, il a perdu son argent? Non, il n'a pas perdu son argent. Et maintenant, je pose une autre question. Parce que c'est pas parce que le type il n'étudie pas que l'attrait de la personne sans argent. L'attrait de la fille, c'est sa condition. Moi, je paye. Mais alors, lui, il n'étudie pas, ben, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai payé. Après, c'est lui qui va rendre des comptes. Il aura un découvert dans son compte, ouais. Dans son Guéinam, il aura un découvert. Avec tout l'Averot, plus les Averot de ça. Mais à part ça, je dis qu'il y a une grande question entre Rav Moshe Feinstein. Est-ce que Bémet, tu entends Rav Marlon, est-ce que Bémet, quand j'étudie, moi j'étudie et on me donne l'argent, ok? Est-ce que moi, quand j'étudie, celui qui me donne l'argent, il prend la moite-moite? Parce que tu sais qu'il y a ma femme aussi qui prend. Alors qu'est-ce qui me reste, moi, dans l'histoire? Qu'est-ce qui me reste? Tu vois ce que je veux dire? Déjà qu'on n'étudie pas beaucoup, parce que pour que l'étude, elle soit étude, il faut que l'étude, elle soit l'ishma, il faut qu'elle soit 100%, sans parler, avec une kavana d'étudier. Je me rappelle toujours Rav Volbe, Zichrono Livracha, toujours il disait comme ça. Il disait, eh oui, on a connu ces rabbanim. Alors, Rav Volbe, il disait comme ça, toujours avant d'étudier une gmara, ouais. C'est ça que je ne comprends pas, la différence. Rav Volbe, qu'est-ce qu'il faisait, Rav Volbe? Avant d'ouvrir la Gemara, il disait, avant, le matin, tu prends ta Gemara, bon, ça, je ferai un autre, mais tu prends ta Gemara, et avant de l'ouvrir, tu dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais étudier maintenant pour Dieu. Tu mets une kavana, tu vois, tu mets l'intention. Et dès que tu as mis l'intention, tu peux commencer à étudier. Mis à part qu'on fait un Yiratson, mais bon, tu peux lire un Yiratson, tu peux ne pas penser. Rabbi Ovadia Yosef, il dit comme ça, il disait un truc très joli, une petite blague comme ça, il disait que Ele Barechev, Vele Basusim, ça te rappelle quelque chose? C'est le mizmor qu'on fait entre Ashré ou Balétion le matin, après la Tfila. On dit Ele Barechev, Vele Basusim. Ceux-là avec des chars et ceux-là avec des chevaux, va nachnu bechem elokenu naskir. Et nous, avec le nom de Dieu, on va prononcer. Alors, il disait, Rav Yosef, il disait une blague, il disait comme ça. Il disait, il y a des gens qui se déplacent en voiture, en avion, en nico, en hélico. Ouais. Il y en a qui se déplacent. Ils se déplacent en, je sais pas moi, chacun il a en jet. Ouais, chacun il a son truc. Mais nous, on se déplace avec le nom d'Hachem. Alors, il disait, c'est-à-dire quoi? Il disait que nous, à peine on dit Hachem Sfatay Tiftar dans l'Amida, on part en Corse, on part en Italie, et vas-y que tu pars en Amérique. Tu sais, tu fais des voyages, pire que si ça avait un jet privé, tu vois. À peine, il y a une zgoula comme ça, on ne sait pas pourquoi. Dès que tu commences l'Amida, tu dis voilà, je veux avoir l'intention. Cette fois-ci, il ne m'aura pas. Taxi Uber, cette fois-ci, il ne m'aura pas. Et voilà que tu penses, ah mais comment c'était bien les taxis Uber, comment je faisais de l'argent, c'était sympa, on discutait, il y avait des copains, ouais, il y avait des gens à qui parler, là, je sais pas, ici, ils m'énervent, les cibles, il n'y a personne que, si j'ai envie de faire une petite ambiance, une petite discussion, je n'arrive pas, tu vois ce que je veux dire? Alors, bah, et les barrechev, et les associés, à peine on dit Hachem, Sfatay, Tifta, et Dirav Joseph, tu pars complètement à l'ouest, tu penses à ta mère qui se trouve au Panama, tu penses à ton père qui se trouve en Afrique, tu vois, ils sont séparés, bien sûr. Tu vois, Kilo, tu penses de partout. Mais, mais Hachem, tu l'as complètement oublié. On dit Hachem Sfatay Tiftar. C'est comme ça me rappelle l'histoire du Bachur Yeshiva que Rav Galinitsky, il raconte toujours cette histoire du fameux Bachur. Il y avait une fois un Bachur Yeshiva, il était en train, il a fait une petite sieste. Quand il se réveille comme ça, il se réveille en transpirant comme ça. Alors son copain lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je sais pas, j'ai rêvé du bon Dieu, d'Hachem. Il dit, quoi? Tu as rêvé d'Hachem? Waouh! C'est presque, il lui a mis une couronne. Il dit, alors, on peut plus se parler, quoi. Si tu rêves d'Hachem, c'est presque un avis, laisse tomber, moi. On se sépare, quoi. Alors il dit, ouais, finirai, je sais pas, je comprends pas en plus. Après, il lui dit, son copain, il dit, non, en fait, c'est pas que tu es à un niveau élevé. C'est tout simplement que, tu sais, quand on pense trop à quelque chose, ouais. Alors, la nuit, on pense. C'est pour ça qu'on dit dans la règle, il ne faut pas penser aux femmes. Parce que si tu penses aux femmes la journée, ben, la nuit, tu risques d'en penser. Et si la nuit, tu vas en penser, ce n'est pas bon. OK ? Ce n'est pas bon. Donc, on te dit, pense à autre chose que... Ouais. Par exemple, imagine, tu es arrivé dans Brachot, il y a tout le pérec, le 9e pérec, ça parle des rêves. Tu es arrivé ici, tu es arrivé ça. Le type qui est arrivé qu'un serpent, il a piqué, c'est-à-dire qu'il est devenu riche. C'est là, mais s'il a pensé la journée qu'il parle que du serpent qui lui pique. Et après, la nuit, il est arrivé, c'est pas une preuve. Il parlait que de ça. Alors, il dit tout simplement, toi, tu penses toute la journée, parce que tu es un Bachur Yeshiva, tu penses à étudier. Donc, forcément, tu es arrivé de Dieu. Donc, c'est pas une preuve que tu es un grand. Ah, le Baruch, il s'énerve, il lui dit, mais tu rigoles. Quand est-ce que j'ai eu le temps de penser à Dieu? Il dit, le matin, je me lève, je fais ma prière. Après ma prière, je vais manger. Après manger, je vais étudier. Après, j'ai le cours. Après, après on fait révision du cours. Après, il y a mincha. Après, il y a la sieste. Après, j'appelle mes copains. Après, l'après-midi, j'étudie. Après Coca Zéro. Après le mincha. Après mincha. Ouais, deux mincha. Non, excuse-moi, arvit. Après arvit, je mange. Et après, on étudie le troisième seder. Et après, petite douche. Après, je tombe dans mon lit, je dors. Il dit, et quand est-ce que j'ai eu le temps de penser à Hachem? Il dit, Rav Galinsky, le type, il est toute la journée ancré dans la Torah. Il est dans une yeshiva à Ramot. Comme je dis que même les caissiers, c'est des hommes. Okay, et il ne pense pas à Hachem une seule seconde. Tu t'en pas? Il ne pense pas à une seule seconde à Hachem, Marlon. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que voilà, c'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est de savoir que quoi? Qu'il y a un bon Dieu dans. Il y a un Dieu ici. Il faut comprendre qu'Hachem, il est là. Et c'est pas parce que tu étudies toute la journée. Tu peux étudier toute la journée et être un voyou. Tu peux étudier toute la journée et ne pas penser à Dieu. Tu peux penser qu'à tes intérêts, à ton kavod, à ton argent, à ton si. Ce qu'il faut, c'est savoir canaliser. Quand tu étudies, Rav Volbe disait, avant de commencer, Hachem, sache que même si je pense pas à toi, parce que là, je parlais du taureau, ou bien du picadon, ou bien de Rav Yosef dans un mafkid, ouais. Tous ces inanimes-là, je commence à rentrer dans le pourquoi je commence, donc je vais être complètement à milieu. Sache que tout ce que je fais, c'est pour toi. Tout ce que j'étudie, c'est à toi. Et quand tu mets cette kavana-là, dire à Volbe, tu as tout gagné. Tu as gagné parce qu'Hachem, il t'a ouvert le compte. Parce que si tu ne penses pas à Dieu, Hachem, il t'a ouvert un compte, mais tu ne penses pas à Dieu, tu penses à ton kavod. Donc là, on ne te met pas les mérites dans ton compte. Dommage, tu as perdu. C'est comme si ton compte il est troué, ça tombe. Ça, c'est, il faut faire attention. Ça a l'air. Autre chose que je voulais dire, avant de recontinuer sur Elisha, on a parlé aussi dans la paracha un truc très intéressant, c'est l'histoire des mitonénim. Mitonénim, on parle de... Quand ils sont sortis ils ont reçu la Torah, etc., ils devaient rentrer en Israël, mais avant d'entrer en Israël, il y avait des péripéties. Ok ? Amalek, il est venu, après, ils ont fait la guerre contre Amalek, après, ils devaient rentrer, il y a eu quelques trucs encore. Et il y a faute de chevaux d'or, après il fallait construire le Mishkan. Ouais, c'était pas prévu tout ça, ils devaient rentrer. Ils ont fait la faute de chevaux d'or, donc ils ont dû créer le Mishkan. Le Mishkan, il s'est fini quand Nissan, l'inauguration, un an après, etc. Donc maintenant, les Bnei Israël, ils doivent rentrer en Israël. Mais maintenant, avant d'entrer en Israël, ils veulent envoyer des Meraglim. Mais avant de parler des Meraglim, ça c'est la paracha de cette semaine. Avant d'envoyer les Meraglim, on était en train de dire qu'ils ont commencé à râler. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on en a marre de cette manne. Nous, on veut un steak, mais le steak, on le veut dans l'assiette. On veut le voir. On veut un steak d'entrecôte avec une bonne bouteille de vin. Pas un steak genre, je mange une boule blanche et je pense à un steak. J'ai pas envie de ça, moi. Et sachez que Bémet, psychologiquement, imagine une personne qui est aveugle, ouais, qui voit pas, malheureusement, il kiffe pas du tout. C'est quand que tu kiffes le gâteau? Tu vas à la Délicieuse, à Paris, tu regardes, ok, tu regardes, et voilà, une religieuse, un éclair au chocolat, tu regardes un beau millefeuille comme ça, après un truc aux cerises, un truc... Hein? Un truc au... Ouais, tous les bons gâteaux là que tu as goûté, ouais, caché, hein, je parle. Et tous les gâteaux, tu vois, les gâteaux magnifiques, tous les noms là, les petites tartes aux... Hein?
Une tropézienne,
je sais pas si en cachère. Un citron meringue, exactement, un citron meringue. Tarte au citron, tarte aux fraises, tous ces trucs-là, ok? Et ils commencent à avoir envie, là. Venez à Baïdjigan, il y en a, Paris-Brest, etc. Bon. Ouais, en Israël, il y a tout. Il y a tout en Israël. Écoute, qu'est-ce qui fait que ça te donne envie? Parce que, pourquoi ils font des gâteaux comme ça, aussi... ils n'ont qu'à faire un aussi joli, parce que c'est tout l'envie et le kiff... C'est dans là, tu vois, c'est le avant, l'aspect, ok? Nakhon ou pas? C'est ça, dans tout. Imagine, je te donne une voiture, elle est explosée, mais je te mets un moteur de Lamborghini avec une voiture toute défoncée. C'est pas le même kiff. Non, c'est pas le même kiff. Ouais, d'accord, mais à part qu'elle roule vite. À part qu'elle roule vite, mais c'est pas ça le kiff. Le kiff, c'est que la voiture d'abord, tu sais, tu l'es. À peine tu l'es. Tu n'as même pas besoin de l'ouvrir. Dès qu'elle te voit, elle s'ouvre, tu vois. Et la voiture, genre, la voiture belle comme ça, là, tout est dans l'aspect. Là, les Bnei Israël, ils arrivent chez Hachem, ils disent, regarde. Les Bnei Israël, tu entends? Les Bnei Israël, ils disent, on n'en peut plus. On n'en peut plus. On a envie de la viande. Alors Rachid demande, mais attends, mais je ne comprends pas. Ils ont de la viande. Ils sont venus tous avec des bétails. Il y a deux tribus ethniques qui ne voulaient pas s'installer en Israël. C'était qui? Réhouven, Gad, Vechatsi, Shevet, Menaché. Il y a deux tribus ethniques qui ont dit, on a beaucoup de bétail. Et là, ici, mais Ever Yarden, avant le Yarden, parce que pour rentrer en Israël, il fallait passer le Jourdain, il y avait plein de pour paître là-bas, pour les animaux. Ils ont dit, c'est là qu'il nous faut. C'est là qu'il nous faut. Moshe Rabbeinu leur a dit, bon, ok, si vous voulez, vous faites la guerre, 14 ans, vous attendez le partage, après vous repartez. Ils ont dit d'accord, ils ont laissé leurs femmes, les valises, ils sont venus faire la guerre. Et voilà que, donc, ils avaient des bétails. Eux, il y a écrit qu'ils avaient beaucoup de bétails. Machma, que les autres, ils avaient des bétails. Pas autant, on va dire, aïa. Donc, si tu as envie de viande, fais-toi la shrita et tu manges un steak, qu'est-ce que tu me veux maintenant? Ouais? C'est une vraie question? Qu'est-ce qui râle? Rachid dit, je comprends de là que c'était que Alila. C'était des prétextes. Il continue Rachid. Après, il dit, on se rappelle du poisson, hein, le merlan qui nous a amené, ouais, ou bien le mérou, ou bien le thon. Ah, le thon, c'est un peu sec, mais bon. Ouais, le saumon. Hein?
Le turbo.
Le turbo, ce que j'ai?
Le bar.
Ouais,
c'est
ouais, le bar.
Dorade, la ouais. Sole, ça, c'est les poissons.
Voilà. Un Marseille qui a un bateau. Voilà. Lui qui a un bateau et qui a un jet ski. Il sait c'est quoi un poisson? Un poisson. T'entends pas? Un bon loup comme ça. Ça s'appelle en hébreu locus. Tu fais un bon loup, tu fais un kiff comme ça? Ouais. Une fois, je suis allé avec un copain, je suis allé chez le poissonnier. Bon, lui, c'était nos limites. Le type, il achète, bon, chez David Dagim, il achète des morceaux de loup, ça s'appelle locus. Comme ça, c'est des morceaux, des tranches comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des barquettes en plastique qui se ferment. Chaque tranche, c'est une barquette, ok? Des barquettes énormes. Il en a acheté 8 parts, 2000 shekels. 2000 chez 8 parts, mais c'est un poisson, le type. Tu vois le poisson, c'est des poissons chez David Hagim. Tu vois des poissons, il t'amène des poissons comme ça. Alors imagine maintenant, imagine, ils ont dit on se rappelle de ces poissons-là, mais ces poissons-là, c'était en Égypte. Ils étaient en menottes en train de manger comme ça, ouais. Ouais, en train de travailler. Ils étaient asservis, travaillés de 5h du matin jusqu'à 2h du matin. Ils arrivaient à la maison, ils n'avaient même pas la force. Il y a écrit que les femmes, écrit dans la Gemara dans Sota, que les femmes, c'était tellement de sadekas, parce que les femmes, ils voulaient faire des enfants, ils se maquillaient, ouais, ils faisaient un bon plat pour que leur mari, ils viennent chez eux. Sans pas. Grâce à ce mérite-là, il y a écrit que c'est, ouais, non, c'est pour ça que les femmes, ils ont été récompensées d'ailleurs. C'est eux qui ont amené tout le clan d'Israël, ils étaient amenés grâce aux femmes. Donc, je te demande une question. Qu'est-ce que tu préfères? Faire des mitzvot, même que ça prend la tête, mais manger du mérou à David Hagim, ouais, à 600 euros la tranche, ou bien de manger avec des menottes, comme Gilad Shalit, dans une cellule noire, et on te fait manger des religieuses et des poissons. Alors qu'est-ce qu'ils disent les Bnei Israël? On se rappelait des poissons qu'on a mangés gratuitement. En plus, ils parlent de gratuit, déjà ça parle d'argent. Rachid dit, on ne parle pas d'argent. Chinam, ça veut dire chinam mina mitzvot. Encore Rachid dit. Il dit gratuit, c'est pas gratuit, argent, on parle pas d'argent, c'est gratuit, c'est-à-dire mina mitzvot. Il dit Rachid, donc d'après ça, d'après ces deux Rachid, on peut faire un pshat. Que quoi? Qu'en fait, ils ont voulu tout lâcher. Quand tu commences à lâcher, tu cherches des prétextes pour dire n'importe quoi. Une fois, on raconte qu'il y avait un élève, il allait chez un élève de Rav Chaim de Brisk. Il a tout lâché. Il a lâché, il voulait être un DJ comme ça, avec les gros cheveux et avec le truc pionnier. Tu sais, les types qui sont complètement défoncés comme ça. Et en sardaine comme ça, tu connais ça? Tu sais, il touche les boutons, il tourne le truc, et tac, tac, tac. Et voilà que ça danse, ok? Il voulait faire ça. Et à un moment, ce bachot-là, il y avait un mariage très important d'un bachot, il voulait assister. Donc il arrive avec ses cheveux longs comme ça, le jeans tout déchiré comme ça. Il arrive, il ne fait plus rien. Il arrive devant le rave, il dit, écoutez, moi j'avais beaucoup de questions de foi. Et d'ailleurs, si vous voulez, rave, on peut en parler, parce que j'ai tout un livre à... Tout un livre de questions. Tu sais qu'est-ce que j'ai répondu à Raphaïm de Brisk? Non, Raphaïm de Brisk, il a dit, regarde, réponse du tac au tac. Il a dit, regarde, tes questions, c'est pas des questions, c'est des réponses. Sans pas. C'est pas des questions, ça. C'est des réponses. C'est quoi des réponses? C'est-à-dire que tu essayes de trouver. Imagine demain, maintenant, tu arrêtes la yeshiva. Tu dis, ah, ça me prend la tête de la yeshiva. Allez, quand j'étais pas religieux, ben, c'est vrai que je faisais que des bêtises. Mais je sentais que je faisais des mitzvot, mais je faisais, il y avait un pauvre, je lui donnais l'argent. Là, depuis que je suis à l'Yeshiva, je sens que c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, ça, c'est le Yetzara. Parce que dès que tu es rentré dans le joug de la Torah, le Yetzara, il veut t'attraper, il te dit toutes sortes de prétextes pour faire tout lâcher. Il te dit, mais arrête, va kiffer et va aider des pauvres. Tu vas voir, tu vas à Osherad, le type qui a remis le paquet de farine, tu le remets, c'est tout, et tu lui payes, tu vois. Ouais, tu vois un type qui n'a pas d'argent, tu lui achètes. Mais tu peux rester pas religieux. Tu vois, le Yitzhara, il te dit tous des prétextes. Il dit à Raphaïm de Brisk, il dit, toi, tes questions, c'est pas des questions. Si tu avais des questions, alors j'ai des réponses. Mais le problème, c'est des questions, c'est juste des réponses. Comme tu te sens mal d'être comme ça, tu vas trouver toutes sortes de prétextes pour essayer de répondre à ça. Et d'ailleurs, ça, par exemple, chez les non-religieux, des fois, on trouve, par exemple, ils te disent Shabbat, et les non-religieux, ils te disent Shabbat. On ne peut pas obliger, ça s'appelle kfia datit, on ne peut pas obliger les gens à fermer leur magasin. Tu ne peux pas obliger. On est un pays de démocratie. Il faut laisser faire les gens leur live. Chacun fait sa live. Moi, j'ai envie d'ouvrir mon magasin. J'ai envie de prendre le bus et aller à la mer. Je vais à la mer. Moi, toi, tu as envie d'aller étudier. Va étudier. Il ne faut pas prendre la tête à personne. Chacun fait sa vie. Et d'un autre côté, donc il te dit, tu n'as pas le droit de m'obliger à fermer le magasin Shabbat. Alors que nous, on veut que les magasins soient fermés Shabbat. Même que les rues. Et d'un autre côté, le jour de Yom HaShoah, que c'est un jour, le jour de la tristesse, qu'ils ont décidé de faire un jour d'élévation de toutes ces âmes-là qui ont été tuées au camp de concentration, les 6 millions de juifs, là, il y a une loi obligée de fermer le magasin. Mais comment tu peux m'obliger? Ok, je suis d'accord que c'est un jour de tristesse, mais si on ne peut pas obliger, on ne peut pas obliger. Si on peut obliger, on l'oblige, mais il ne faut pas... C'est pareil. Donc tu vois qu'il y a des contradictions. Des fois, tu lui parles à nous. Par exemple, cette semaine, j'ai rencontré un type de... Le type, il habite à Herzliya, pas Bitoir. Je lui dis, bon, si déjà tu habites à Herzliya, habite à Bitoir, tu vois. Ah, il me dit, j'habite à Herzliya. Il me dit, 5 pièces, bon, 140 mètres carrés, mais rien de spécial, quoi. Alors, je dis, bon, et je lui dis, qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Bon, j'ai travaillé, mes enfants, ils sont maintenant à Tel Aviv, il a ouvert son truc. Bon, bref, je dis, et la religion? Je commence à le brancher, et la religion? Il me dit, ben, la religion. Mes parents, ils faisaient un peu Shabbat. Il faisait la cache-route et moi, à 18 ans, j'ai décidé de choisir mon chemin. Je dis, ouais, mais choisir, il y a choisir, mais tu n'es pas obligé de... C'est pas ou noir ou blanc, tu peux faire... Il y a un juste milieu aussi, tu n'es pas obligé de tout lâcher. Je dis, non, mais tu comprends. Je dis, regarde. Je dis, peut-être, c'est des fois, un petit mot, tu lui mets, après tu pars et après, il va réfléchir. Je dis, regarde, tu es quand même âgé. Je dis, tu n'es pas un vieux, tu ne vas pas dire un type qui est vieux, c'est un vieux. Mais tu es âgé. Tu approches plus de la mort que de la vie. Ok? Non, j'ai pas dit ça, mais je lui ai dit, regarde, il y a un but dans ce monde, on est venu pour un but. Pourquoi on est venu dans ce monde-là, Rabotai, on est venu pour un but. Ah, ok, les types, ouais alors je travaille, j'ai des copines, j'ai de l'argent, on fait des restos, on fait des kiffs, on s'achète une belle voiture, la petite voiture là, qui fait du bruit. C'est bien tout ça, mais après ça, ouais, j'ai parlé à un baron d'ici. Il m'a témoigné, donc j'ai le droit de le dire. Il m'a témoigné, il m'a dit, c'est pas parce que tu... Ok, tu vas... Tu t'es fait une fois un kiff, t'es allé au magasin Chanel. Tu es sorti avec les sacs comme ça, ok? Mais la deuxième fois, ils te connaissent, ça y est. Ils savent que tu es riche, ça y est. Ils te font un plus de cavotte, tu vois ce que je veux dire? Ça y est, c'est fini tout ce truc-là. Il y a un but dans ce monde-là. Le monde, personne n'est rempli de choses futiles. Je connais des gens, ils ont immensément d'argent. Et quoi? Le type, il s'ennuie, il va en Amérique, après il va en France, après... Il ne sait pas quoi faire, le type, tu vois ce que je veux dire? Tu vois qu'il s'ennuie. Mais tu vois qu'avec tous ces kiffs-là, il est... Moi, si par exemple, je partirais en Amérique, tu me reverrais frais, tu vois? Non, mais tu sens que ça m'a fait quelque chose, tu vois? Mais ces types-là, comme ils peuvent se faire, ils n'ont pas de kiff. Donc même quand ils vont aller au fin fond du monde, ils ne vont pas kiffer. Parce que ce kiff-là, ils peuvent le faire tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une règle dans le... Tout le kiff, c'est dans le rêve. Mais quand tu l'as, tu veux autre chose déjà. Les blés Israël, ils ont... Les blés Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les blés Israël, ils ont dit... Ils ont décidé de ne pas poser des questions. Ils ont décidé de tout lâcher. Et quand ils ont décidé de tout lâcher, là, ils commencent à dire n'importe quoi. j'ai besoin de viande, j'ai besoin de poisson. Mais quel poisson? Le poisson, tu le manges avec des menottes. La viande, tu l'as la viande. Qu'est-ce que tu me veux maintenant? C'est quoi ton problème? La manne. Ah, mais on se rappelle des pastèques et des trucs. Mais la pastèque, tu sais pourquoi on te l'a abandonné, Rachidi? Parce que c'est les femmes qui allaitent, c'était pas bon pour eux, tous ces trucs-là. Donc tous ces trucs-là, Hachem, tout ce qui t'a pas donné, c'est pour ton bien, c'est pas... Donc au lieu de regarder de façon positive, ouais, on regarde négative. Et c'est ça qu'on apprend dans ces parachas-là. L'apprendre un paracha qu'il faut regarder un peu les choses positives. Arrêtez de regarder qu'est-ce qui va pas, il faut regarder qu'est-ce qui va bien. Nahon ou pas? Comme on l'a dit la semaine dernière, c'est quand c'est impossible, c'est là que ça devient possible. Nahon ou pas? On l'a dit la semaine dernière? Imagine tout va bien. Baruch Hashem. Maintenant, imagine que tu as une galère. Alors tu commences à... Tu dis, j'ai une galère, tu dis, ben regarde, il y a ce rabbin-là qui peut m'aider. Il y a Marlon qui peut m'aider. Il y a Nico qui va m'aider dans cette galère-là. Il y a Yosef qui va m'aider. Donc, et après, mais en même temps, tu pries Hachem. Ouais, il y a Simon.
En même temps.
Il y a, donc chacun il va aider, ok? Si tu as besoin d'une serrure, tu peux l'appeler. Je sais pas si... Ouais.
Il y a Ilan aussi qui peut.
Ilan, il est bien bronzé. Alors, ce que j'étais en train de dire maintenant, c'est que donc chacun... Quand tu pries Hachem, mais en même temps, tu sais, par exemple, imagine un barreau, il cherche à se marier, il cherche une fille. Et il n'arrive pas à se marier, ça ne vient pas. Et il y en a malheureusement des barreaux. Oui, mais hier, encore une fois, il y a un barreau, ouais, vous l'avez vu ce barreau, le pauvre, il cherche à se marier. Et c'est un bon barreau, c'est un sadique et tout. Tu dis Hachem, donne-lui une petite fille, donne-lui une fille, il mérite, tu vois, c'est un gentil garçon et tout. C'est-à-dire que c'est un barreau qui est gentil, tu vois, qu'il a un cœur de. Une neshama teora. Donc, Akshbohu, des fois. Il dit, regarde, quand il me prie cet homme-là, il pense, il me prie à moi, mais en même temps, il sait qu'il y a une chatranite à Paris, une chatranite à Marseille, une chatranite à Ramoth. Donc il compte, c'est pas encore du impossible, c'est encore du possible. Il y a un moment que le type, il craque, il arrive à 29 ans comme ça, tout défoncé. Il dit, Hachem, regarde, papa toi.
Non, mais.
Chel Shalom, oui, je parle de personne. Non, mais ça va. Chel Shalom. Un barreau, il arrive à 29 ans comme ça, tout défoncé. Et là, il dit à Hachem, regarde, il arrive devant les murs de Lamentation, il dit à Hachem, regarde, j'en peux plus. C'est quoi, j'en peux plus? J'en peux plus. Il dit, regarde, c'est quoi? Ça y est, il n'y a plus personne, il n'y a que toi, Dieu. Je mets mes mains que sur toi. Et là, pitom, il sort du cotel. Tu vois pas qu'il y a une fille aussi qui sort du cotel? Et ils font un chidour, ils se marient.
Et là, il fait tomber son site.
Ça veut dire quoi? Que quand c'est impossible, c'est là que ça devient possible. Il y avait une blague une fois, il y avait un rave, il y avait un pauvre qui priait au cotel, et à côté de lui, il y avait un gros milliardaire qui priait. Tu la connais celle-là? J'avais dit là, toi? Il y avait un gros milliardaire qui priait à côté de lui, il priait. Et le pauvre, il écoutait, il voyait le milliardaire qui pleurait. Et qu'est-ce qu'il disait le milliardaire? Que ma roue, on pleut de la voiture, il se crève. Il ne comprenait pas. Il a trop d'argent qu'il veut dépenser dans des pneus, il veut acheter des pneus de Michelin. Le type, tiens l'argent, regarde. Moi je suis pauvre, toi tu es riche, vas-y, venez, on fait comme ça, c'est tout. Arrête de prier comme ça.
Il fait jouer la science.
Alors, après, à la fin, le pauvre, tu entends? Après, le pauvre, il va chez le riche, et il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as prié? Tu la connais? Il dit, qu'est-ce que tu pries que ton pneu il crève et tout? Il dit, ben parce que tu sais que le monde, on dit la roue, elle tourne. Je demande à Hachem qui crève la roue, qu'elle reste toujours, qu'elle tourne pas chez moi. Je suis toujours milliardaire. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que quoi? Que le type, il veut que, il n'y a pas de roue qui tourne. Ça, il faut que ce soit, mais on sait que la roue, elle tourne. Tu es d'accord ou pas? Elle tourne. Une fois, il est riche. Lui, il est riche, toi, il est pauvre. Il y en a que ça tourne pas, tu vois. Il y en a que c'est crevé. Ouais, bon, Hachem, il y a des gens qui sont les enfants, petits-enfants. Ils ont des pannes. Mais tous ces trucs-là, il faut savoir que il faut savoir d'abord se diriger. Le Yesod, c'est quoi? Se diriger comme Elisha. Comment il arrivait, Elisha, à faire tous ces nissimes-là? On voit qu'il arrive à faire ce qu'il a envie. Et vas-y, il fait ça, et vas-y, qu'il fait ça. Et là, la semaine prochaine, on va raconter l'histoire de Yonah Navi. Bien, on va raconter toute l'histoire de Yonah Navi. C'était un élève de Elisha. Comment on voit? Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était des patrons. Ils faisaient ce qu'ils avaient envie. Ils étaient soumis par Hachem. Hachem, ils avaient la main d'Hachem avec eux. Ce qu'ils faisaient, ce qu'ils voulaient, ils faisaient. On voit que Elisha, par exemple, on raconte que Elisha, pour finir, à la fin de sa. Quand il est mort, Elisha Anavi, ils l'ont enterré, il y avait un autre enterrement d'une personne qui faisait plein de Zdaka, de Chesed et tout. Et il est mort très jeune. Et, quand ils ont fait son enterrement, ils étaient en train de le porter, et d'un coup, il y a eu des gens qui n'aimaient pas les juifs, ils sont venus pour les attaquer. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu des soldats, ils ont lâché le mort, et ils l'ont fait tomber par terre, ils sont sauvés. Et le mort, il est tombé, il écrit qu'il est tombé sur la tombe de Elisha. Écoute, il a touché la tombe de Elisha. Tu vois pas que le type, il s'est remis debout, quoi, comme s'il n'y avait rien. C'est raconté dans le Navi. Que, tu vois que Elisha, même sa tombe, elle était dans un endroit très haut. C'est ça qu'on voit dans... C'est ça l'histoire de Elisha. Et là, maintenant, on va finir avec Elisha. Il a fait encore des autres choses, Elisha, à part des nissim qu'il a fait, plein de nissim. Et voilà, maintenant, ça passe à l'histoire de Yonah Navi, que l'on va raconter la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Chazak Baruch. Si vous avez aimé, faites un like.